Voilà, donc dans ces derniers mois, on a regardé les différentes versets d'Ésaïe 58, qui est un peu notre chapitre thème de cette année, donc restaurer notre relation avec Dieu et avec les autres. Donc durant tout ce printemps, nous avons regardé les différents thèmes. Donc on va regarder un petit peu, se rappeler certains points que nous avons regardés et maintenant on va regarder les derniers versets. Qu'est-ce que Dieu va dire à travers Moïse aussi dans les versets, à partir du verset 8. Donc le titre de la prédication, c'est Restaurer notre relation vers des chemins nouveaux. Le Seigneur promet à son peuple d'Israël, à travers Ésaïe, des chemins nouveaux, des chemins qui vont être changés, qui vont être bénis pour eux s'ils vont dans la direction, s'ils vont dans la volonté de Dieu. Donc, on avait vu un peu le mot restaurer, qu'est-ce que ça veut dire dans le dictionnaire. On a vu que ça veut dire rétablir dans son état ancien ou de sa forme première, comme par exemple restaurer la paix ou la ramener. Il est parlé aussi de remettre en bon état, de remettre en vigueur, de redonner des forces. Donc, on voit que le mot restaurer, restauration amène un état qui était là avant, qui a été perdu ou qui a été changé. Donc, restaurer demande que justement nous puissions revenir dans quelque chose qu'on a perdu, revenir peut-être dans quelque chose qu'on a oublié. Et si on voit dans l'histoire d'Ésaïe 58, on voit que ce thème de restaurer va dans le sens de revenir à quelque chose de juste, quelque chose qui a été perdu, quelque chose qui a été besoin d'être retrouvé dans la vie des Israélites. Donc, avant d'aller un peu plus loin, regardons quelques points importants des versets que nous avons vus durant tout ce printemps, nous avons décortiqué un peu ce chapitre. Donc, dans ces derniers mois, on a vu que ce chapitre 58 se divise en trois parties principales. La première, c'est restaurer notre relation avec Dieu. Donc, on voit, si ouvrons notre Bible dans justement Ésaïe 58, ça va nous permettre de nous rappeler un peu ces versets. Donc, on voit comment que Ésaïe est appelé à crier, à élever la voix pour dire au peuple, ben vous dites que vous me cherchez, vous me dites que vous jeûnez, vous me dites que vous êtes dans les bonnes dispositions pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais voici ce qui se passe, voici ce que vous êtes, ce que vous faites jour après jour. Donc, Dieu va leur dire qu'ils ont la piété extérieure, c'est-à-dire qu'ils ont cet attachement à Dieu, mais d'une façon extérieure, comme un rituel. Je dois aller devant Dieu, mais mon cœur n'est pas là. À l'intérieur, rien n'a changé, parce qu'on le voit dans les versets qu'ils se querellent entre eux, qu'ils exploitent leurs ouvriers. Donc, nous avons vu comment nous devons restaurer notre relation avec Dieu, de comment nous avons perdu peut-être ce premier amour, hein. Comment que nous avons peut-être la forme extérieure, justement, d'attachement à Dieu, mais qu'en réalité, nous agissons avec une pratique extérieure, mais que notre intérieur, peut-être, n'est pas restauré, n'est pas revigoré, on n'a pas la passion pour Dieu. Un amour, peut-être, que nous avions dans les premières années de notre vie chrétienne, mais avec le temps, avec la routine, avec les situations, bien, c'est venu comme une façon de dire, oui, je dois aller à l'église, je dois me rendre au culte, je dois faire mes prières, je dois faire ma lecture. Mais il n'y a plus vraiment un changement dans notre cœur. Il n'y a plus ce désir de dire, Seigneur, je veux vraiment être attaché à toi, je veux connaître ta vérité. Nous avions vu plusieurs versets hein, où Dieu nous disait, où Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau. En commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Donc, il y avait ce rappel que Jésus le disait à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Et nous avons vu aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Donc, Jésus, au début de son ministère, va dire, cherchez d'abord son royaume. On voit le mot chercher comme le premier mot. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, il y a une action. On ne peut pas chercher en restant les bras croisés. On ne peut pas chercher en restant assis. Quand on cherche, qu'on a perdu nos clés ou on cherche quelque chose, mais on fait une action, on essaye de trouver. Il y a un engagement de notre part. On essaie de découvrir, de regarder à gauche, à droite, par exemple, pour trouver justement nos clés qu'on a perdues. Si on désire restaurer notre relation avec Dieu, un des premiers actes est de faire quelque chose. Pas dans le but de pouvoir dire, mais Seigneur, je fais des œuvres pour toi. mais on doit démontrer à Dieu notre désir de l'aimer, notre désir de s'attacher à lui, le désir de remettre en vigueur notre foi avec le Seigneur, de redonner des forces pour pouvoir avancer avec lui. Et nous avons vu donc dans plusieurs domaines comment il fallait restaurer une relation avec Dieu, comme la lecture, la méditation de la parole de Dieu, comment que c'est important que dans la parole de Dieu, on a les réponses, on a la volonté de Dieu, on a la façon de comment que Dieu désire que nous puissions marcher. On a aussi vu comment être à l'écoute de Dieu, comment que on a besoin justement par la parole de Dieu, mais aussi dans la prière, dans la méditation, d'écouter Dieu, de comprendre ce que Dieu veut nous dire. On a vu aussi la générosité, comment que Jésus a été tellement généreux avec nous qu'il nous demande aussi d'être généreux à travers notre argent, mais aussi à travers notre temps, à travers aussi notre disposition pour lui. Donc, comment cette relation justement avec Dieu va nous aider pour la deuxième partie justement à vouloir avancer avec le Seigneur? Et justement, le deuxième grand point que nous voyons dans ce chapitre Ésaïe 58, c'est restaurer notre relation avec les autres. Puisque Dieu va leur dire, vous faites du un jeûne extérieur, mais ça ne change rien. Puisque vous querellez, vous bataillez, vous manipulez vos ouvriers, etc. Et là, ensuite, on le voit dans les versets suivants, il dit, voici le véritable jeûne, voici ce que je préconise. Donc, lorsque nous avons une relation qui est avec Dieu qui est restaurée, alors à ce moment-là, nous sommes capables de savoir comment travailler aussi avec les autres. Comment aimer nos frères et sœurs de l'Église? Comment aimer aussi notre prochain que Dieu met sur notre route? Galates chapitre 6, verset 2, Paul va rappeler ceci: aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Donc, il nous a dit de nous aimer les uns les autres, ce n'est pas simplement de nous respecter ou simplement de nous dire bonjour les uns les autres, mais il demande de nous aimer, de même de porter notre fardeau, c'est-à-dire que nous sommes capables de dire, j'aime mon frère et ma sœur, je vais prier pour elle, pour lui, mais je vais aussi faire quelque chose. Je vois qu'il est dans une difficulté, je vois que peut-être il trime dur, je vois que peut-être il est dans un temps d'épreuve, je vais l'accompagner, je veux l'appeler, je veux lui téléphoner, je vais l'encourager pour avancer. Je veux l'aider peut-être dans sa vie parce que il passe par un moment difficile. Les fardeaux dans ce verset Galates 6, 2 peuvent se référer aux manquements, aux tentations, aux épreuves, aux afflictions. Donc, on a besoin d'être sensible à ce qui se passe autour de nous. Voilà pourquoi de l'importance de ce mot porter. Ce mot porter implique que nous nous aidons l'autre à supporter ce fardeau, comme de porter avec lui. Cette portée ne veut pas simplement dire, mon frère, ma soeur, prends courage, mon frère, tu vas y arriver, je vais prier pour toi. Non, ça demande d'avoir une implication, ça demande une action de notre part envers la personne. Portée demande qu'on soit à côté de cette personne, qu'on comprenne ce que c'est son fardeau et qu'on l'aide à surmonter par nos encouragements, par nos prières, par nos visites jour après jour. Voilà pourquoi que nous avons mis aussi en place ce désir de la fraternité. Voilà pourquoi qu'on croit que c'est important de se communiquer les uns les autres. Et surtout durant l'été, ben le temps est peut-être aussi propice de pas simplement juste de nous appeler, mais de nous visiter les uns les autres, de faire une activité ensemble en famille ou ensemble de sortir. On a besoin de se connaître les uns les autres. On a besoin de dire, mon frère et ma sœur, qu'est-ce que tu vis? Je te vois le dimanche, tu es joyeux, mais la semaine, comment est-ce que tu vis? Est-ce que ta relation avec Dieu est complète? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es dans la joie de ce que tu vis avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe? Et c'est seulement dans les temps d'échange personnel qu'on va avoir peut-être l'occasion d'écouter, d'entendre aussi ce que les gens peuvent vivre dans leur vie de tous les jours. Et le troisième aspect, ce sont les conséquences de cette restauration. Et c'est là que nous allons arriver. Alors, ouvrons notre Bible dans Ésaïe 58 et on va lire les versets 8 à 10. À cette troisième étape qui est le résultat de cette restauration avec Dieu et avec les uns avec les autres. Ésaïe 58, versets 8 et 10 qui dit, alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors, la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois au besoin de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Si vous regardez dans votre Bible, dans la plupart des versions, le premier mot du verset 8, c'est le mot alors. Ce qui veut dire que c'est le verset qui est une réponse au verset précédent. On voit dans le verset précédent justement le véritable jeûne, ce que Dieu demande à son peuple. Il dit, ben, si tu pratiques le véritable jeûne, alors voici ce qui va se passer. Voici les conséquences positives ou positives de ton jeûne véritable que tu donnes pour le Seigneur. Justement, dans le verset 6 et 7, on l'a déjà vu, Ésaïe va énumérer une série de points que nous avons besoin de faire pour faire le véritable jeûne. Des actions concrètes envers les autres qui démontrent notre piété intérieure ou notre attachement à Dieu. Donc, dans le verset 6, on voit plusieurs thèmes qui peuvent se correspondre à toutes sortes de liens que les personnes peuvent avoir sur eux. Chacun de nous, on a un cheminement, chacun de nous, on a une vie, même avant que le Seigneur. Et peut-être qu'il y a des liens, il y a peut-être des choses que nous avons faites dans notre vie qui restent encore, qui sont encore comme des traces, qu'on a besoin encore d'être délivrés. Mais il y a encore aussi des gens autour de nous qui ont justement ces différents termes. La méchanceté, on doit détacher les liens de la méchanceté. On le voit aujourd'hui de plus en plus comment que les gens sont méchants quand on voit tous les messages qu'il y a sur les réseaux sociaux, comment que les gens osent dire des choses sans connaître la personne. La servitude par rapport justement à l'ennemi, par rapport à une idole, par rapport à quelque chose qui nous empêche de vivre la liberté. Donc, délier les courroies, nous devons comme encourager à délier les courroies, délier ce qui est attaché pour que la personne puisse être libre. L'oppression, beaucoup de gens aujourd'hui sont oppressés, oppressés par toutes sortes justement, par toutes sortes de choses que l'ennemi met sur leur vie. Nous avons besoin de les rendre libres par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des jougs et des contraintes, différents jougs, des contraintes des fois qui nous viennent de nos familles, qui nous viennent de nos passés, des conséquences de nos péchés. Et on a besoin de briser, de mettre fin à cela. Donc tous ces points demandent un effort qui dépasse le temps de jeûne, c'est-à-dire qu'on doit avoir cette attitude de vouloir justement pratiquer, de détacher, de délier, de briser, de mettre en liberté. Dans le verset 7, on voit aussi la même chose. Mais là, on voit des points qui sont plutôt physiques ou matériels. Celui qui a faim, être capable de partager ton repas. Peut-être que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est abondante. Mais il y a des gens autour de nous qui n'ont pas forcément à manger à tous les jours. Aux pauvres sans-abri, on voit de plus en plus avec la situation économique qui se passe. Si vous vous promenez souvent avec les déplacements pour aller dans le travail, je passe sur la rue Notre-Dame et je vois toutes ces tentes, toutes ces personnes qui sont sous tente et ça fait mal de voir toutes ces personnes qui n'ont plus rien. Certains, c'est vrai qu'ils sont là depuis un certain nombre d'années, mais on entend de plus en plus qu'il y a des gens qui ont perdu leur loyer parce que ça venait trop cher. Ils ont perdu le travail et ça a eu toute une suite jusqu'à un moment donné, ils se retrouvent dans la rue. Celui qui est nu ou celui qui n'a rien, de donner des habits. Il y a des personnes autour de nous qui ont peu. Peut-être qu'ils viennent d'arriver dans le pays, peut-être qu'ils ont vécu une situation difficile. Ton frère, l'étranger, ton prochain, ne pas se détourner ou se cacher. Lorsque quelqu'un vit une situation, pas simplement tourner la tête, pas simplement dire ben, Dieu te protège ou Dieu te guide, mais être capable de ne pas se cacher, de ne pas se détourner de cette personne, mais d'aller l'aider. Donc, si on accomplit le véritable jeûne dans l'action vers les autres, dans l'amour et dans le partage, alors quelque chose va se passer. Dieu est concerné de ce qui va se produire. Voilà pourquoi que justement notre vie avec le Seigneur n'est pas simplement juste une vie d'adoration, de louange, de prière. Oui, c'est vrai, mais il veut que nous puissions accomplir des choses pour lui. Il veut que ce que nous adorons, il veut ce que nous croyons dans notre cœur, nous puissions le dire, le faire, le montrer aux autres. À travers des gestes, à travers des actions. Alors, justement, qu'est-ce qu'il est dit justement dans ces versets que nous avons lus tout à l'heure? Dans le verset 8, il est parlé que la lumière jaillira. Hein? C'est-à-dire qu'après la nuit, vient le matin, vient cette lumière. Et ça permet de voir devant nous. Nous savons que c'est un jour nouveau qui est devant nous. Dans la parole de Dieu, il est parlé souvent de la lumière comme quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Quand Jésus va dire que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes quelque chose que le monde a besoin de voir. Comme dans l'image, comme on voit dans l'image sur l'écran, de cette lumière qui resplendit. Les gens, lorsqu'ils voient cette lumière, ils sont attirés. Ils voient clair, ils voient ce qui se passe devant eux. Il est dit, la lumière va jaillir. Il est parlé aussi de ton rétablissement s'opérera bien vite. Pour les Israélites, il faut penser qu'à ce moment-là, ils étaient en déportation. Ils étaient loin de Jérusalem. Ils étaient comme obligés d'être dans un pays qu'ils ne voulaient pas auprès de habiter après avec leurs ennemis. Donc, ils s'attendaient à ce rétablissement qui leur permettait de revenir chez eux, de vivre en paix. Le rétablissement aujourd'hui peut être par rapport à dans la santé. Comment que Dieu est concerné à nous redonner ce qui a été perdu, par le rétablissement de quelque chose que nous avons perdu ou manqué. Ça peut être justement dans la santé physique, mais ça peut être aussi dans la santé émotionnelle, spirituelle. Il est parlé, la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. On peut voir dans ce bout de phrase l'image du peuple d'Israël qui, dans le désert, lorsqu'il est sorti d'Israël, de l'Égypte, marche dans le désert et comme il voit la colonne de nuée qui est devant eux la journée et la colonne de feu qui est aussi là la nuit. Et on voit que lorsqu'ils arrivent justement vers la mer Rouge, lorsqu'ils vont traverser, lorsque justement les Égyptiens sont en train de les pourchasser parce qu'ils ne sont pas d'accord de les laisser partir. Cette colonne va se déplacer en arrière. La gloire de Dieu va empêcher les Égyptiens de toucher les Israélites jusqu'au matin, jusqu'ils aient tous traversé la mer. L'Éternel, la gloire de l'Éternel sera notre arrière-garde. Ça veut dire que l'Éternel sera à côté de nous, devant, derrière, à côté. Il va nous protéger, il va nous garder. Nous allons voir cette gloire se manifester sur nous et autour de nous. Le commentateur biblique McDonald va dire que l'expression ta justice peut englober tous les actes des actes de bonté précédents qu'on voit dans les versets 6 et 7, ou la justice que Dieu impute à celui qui croit. Cette justice sera là pour nous et on va voir la gloire de Dieu qui va être présente avec nous. Que sa présence et sa puissance seront là pour nous guider, pour nous protéger, pour nous démontrer aux autres que nous appartenons à Dieu. Donc lorsqu'on lit ce verset 8, lorsqu'on comprend les conséquences positives du véritable jeûne, alors on expérimente les bontés de Dieu sur nous et sur nos familles. Comment cette lumière va jaillir, c'est-à-dire qu'un jour nouveau va arriver. Comment cette lumière que les autres vont voir, qui va les éclairer. Comment que notre rétablissement, que ce soit du côté santé, que ce soit du côté spirituel, va aussi être présente. Comment que la justice de Dieu sera présente dans notre vie. Comment elle va se voir. Comment que la gloire de Dieu sera présente sur nous. Toutes ces choses qui sont dites au verset 8, ce n'est pas simplement juste des expressions pour nous faire du bien, mais c'est réel. Lorsque Dieu le dit, elles vont arriver, elles vont se concrétiser. Ensuite, on voit dans le verset 9, il est dit que l'Éternel répondra lorsque tu appelles dans la prière, dans la détresse. Dieu va te dire, je suis là. Là encore, ce ne sont pas juste des mots pour encourager les personnes, mais ça va se réaliser concrètement. Et ça va se faire, comme il est dit dans la suite du verset 9. Il va être là. L'amour de Dieu va jaillir. Si tu supprimes le joug de l'oppression, si tu supprimes les gestes menaçants et les propos méchants. Donc là, il rappelle dans le verset 9, il dit, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants. Donc il y a cette condition qui va dire, je vais répondre à ton appel. Je vais répondre dans ta détresse. Je veux dire, je suis là. Mais pour cela, il faut que tu changes. Pour cela, il faut que tu enlèves les choses qui sont méchantes dans ton cœur, qui empêchent de pouvoir vraiment voir réellement la bonté, la grâce de Dieu, voir la puissance de Dieu se déverser. Et on voit dans le verset 10 qui continue. Il va dire, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et tu pourvois aux besoins opprimés. Encore une fois, Dieu rappelle à travers Moïse, voici le jeûne que vous faites. Vous faites un jeûne extérieur, mais vous continuez d'être méchant, vous continuez d'avoir des propos menaçants, continuez à ne pas pourvoir aux besoins des autres, vous continuez à vous quereller les uns les autres. je ne peux pas agir dans cette façon-là. Mais si tu changes, si vraiment tu restaures ta relation avec le Seigneur, alors voici ce que je vais faire. C'est vrai que les Israélites avaient désir de voir cette lumière, avaient désir de sortir de ces ténèbres, d'être opprimés par leurs ennemis. Mais pour cela, il fallait qu'ils changent leur attitude. Alors, est-ce que ce matin, nous aspirons à voir la lumière dans notre vie? Est-ce que nous sommes peut-être dans un temps de ténèbres, dans un temps difficile où nous ne savons pas comment s'en sortir? Le Seigneur veut nous dire ce matin que sa lumière va jaillir d'une façon grande et lumineuse lorsqu'on va pratiquer le véritable jeûne devant Dieu et devant les autres. Le Seigneur veut nous dire que sa justice va marcher devant nous d'une façon surprenante et nouvelle. Et je peux vous le dire que je peux le dire personnellement, aussi avec tous les défis que nous avons vécu avec nos propriétaires, comment que le Seigneur rétablit la justice, comment que le Seigneur met les choses devant nous. Si on désire tous recevoir, on veut tous recevoir les grâces et les bénédictions de la part de Dieu. Et il veut nous les donner en abondance si on marche d'une façon juste et renouvelée avec le Seigneur. Et dans le verset 11, le verset 10 plutôt, il est dit, l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Nous aimerons justement tous que Dieu soit notre guide à tous les jours, principalement on vit des temps difficiles, lorsqu'on a besoin de prendre des décisions à prendre, dans les directions à prendre par rapport à notre vie, à notre vie professionnelle, à notre famille, par rapport peut-être au ministère, etc. Dieu peut nous guider dans les bons choix à prendre dans notre vie, pour notre carrière professionnelle, nous guider dans le chemin qu'il a prévu pour nous, qui est un chemin rempli de ses bontés. Et comme il est dit, il ne sera pas là juste pour un instant, mais comme il est dit dans la suite du verset, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. On sait que dans les déserts, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre, il fait chaud, c'est difficile. Dans les déserts arides que nous pouvons vivre dans notre vie de tous les jours, dans les situations, les épreuves, les problèmes, Dieu va nous dire, il va pourvoir à tes besoins en tout moment. Dieu nous dit encore ce matin, dans le temps où tu as l'impression que rien ne va, que tu n'as pas de réponse à tes questions, ou dans un temps d'épreuve que très dur, le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Et on a pu encore l'expérimenter encore cette semaine. Nous étions la semaine passée pour quelques jours partis dans la famille en Gaspésie. Lorsqu'on est parti, notre cousin nous donne un chèque et puis on l'a remercié. Et c'est seulement plus tard que lorsqu'on a ouvert le chèque et on a vu la somme, on n'était pas sûr qu'on avait bien vu le nombre et comme ça. Mais on était vraiment incroyablement béni. Il nous a déjà béni dans le passé, mais là d'une façon vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'on leur parlait qu'on était dans une situation un peu plus difficile, que Nicole avait perdu son travail, etc. Et comment qu'ils ont eu à cœur de nous aider vraiment d'une façon incroyable. Dieu pourvoit. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Il connaît. Il peut le faire par n'importe quelle personne, par n'importe quelle situation. Dieu est un Dieu qui est proche de nous, de nos préoccupations, de nos défis. Et il veut pourvoir à tous nos besoins. Que ce soit autant du côté personnel, du côté physique, matériel, du côté émotionnel, spirituel, Dieu veut accomplir des choses dans toute notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Dans la suite du verset, il est dit, il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. Pour ceux qui aiment les jardins, hein, l'importance qu'il faut arroser les plantes à tous les jours, surtout quand il fait très chaud comme ces temps, afin qu'elles poussent bien. Dieu va nous fortifier dans les temps les plus difficiles. Pour pas simplement qu'on puisse survivre ou aller un jour à la fois, mais il veut que nous vivons comme une plante bien arrosée, qui pousse et qui est belle. Il va nous fortifier quand tout semble perdu, qui est sans issue. Il va nous donner force et vigueur pour aller de l'avant. Dans la suite du verset 11, il est dit, il est parlé à une source vive aux eaux intarissables. Il n'est pas simplement juste parlé d'une source d'eau qui a de l'eau de tout le temps. Peut-être à un moment donné, avec l'été, il y a un peu moins d'eau. Mais il y a le mot vive qui est rajouté. Ça veut dire que c'est une source qui apporte la vie, qui rafraîchit dans les temps difficiles, qui permet d'avoir la vie en abondance. Où est-ce qu'on trouve encore cette expression de l'eau vive dans la Bible? Vous savez, vous vous rappelez? Quel est le texte que nous prenons souvent où il parlait de cette eau vive. Jésus, qui est assis au bord du puits avec la femme samaritaine, il lui demande à boire. Et dans la conversation avec cette femme, Jésus va lui dire qu'il peut lui donner cette eau vive. Et voici qu'on peut lire dans Jean chapitre 4, versets 13 à 14. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura encore de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voici la promesse que Jésus va donner à cette femme samaritaine. Elle avait besoin d'entendre la vérité de sur sa vie. Mais dans la grâce que Dieu voulait lui donner, Jésus lui dit, je peux te donner cette eau vive, que tu n'aies plus besoin de toujours chercher à travers le monde ou à travers des maris, à travers tout ce que tu peux vivre. Je te donne une eau qui va te désaltérer jour après jour, jusque dans l'éternité. Jésus peut nous donner cette source d'eau vive qui ne sera jamais puisée. Une eau vive qui va jaillir dans l'éternité. Une eau qui rafraîchit, qui étanche notre soif. Une eau qui nous donne la vie en abondance. Donc, toutes ces choses qui sont décrites dans les versets 8 à 11 sont les réponses ou le résultat du véritable jeûne, tels qu'ils sont prescrits dans les versets 6 et 7. C'est la conséquence des actions qui sont faites envers les frères et sœurs de l'Église, envers les autres, envers nos prochains. Alors, ce matin, prenons quelques instants. Vous avez reçu chacun un petit bout de papier, vous avez pu noter, mais j'aimerais que vous regardiez, que vous repreniez les versets 8 à 11 et que, à travers aussi l'écoute du Saint-Esprit, vous dites peut-être qu'il y a un terme ou un point que vous avez besoin actuellement d'expérimenter dans votre vie, un terme ou un point que vous avez perdu et que le Seigneur veut nous dire, qu'il veut vous dire, qu'il veut vous redonner, qu'il veut que vous expérimentiez de nouveau et d'une façon nouvelle. Alors, il y a les différents points. Il est parlé de la lumière qui jaillit, il est parlé du rétablissement, il est parlé de voir la justice de Dieu et sa gloire, il est parlé que Dieu répond, il est parlé que Dieu dit « Je suis là », il est parlé que Dieu sera mon guide, il est parlé qu'il pourvoira à mes besoins, il est dit qu'il nous fortifie, qu'il peut nous donner cette eau vive. Alors simplement, prenez un instant de silence. Et sur votre papier, à un moment donné, dites, Seigneur, dans ces différents termes que je vois, dans ce véritable jeûne, les conséquences positives de ce véritable jeûne, est-ce qu'il y a un élément que tu veux maintenant me dire, que j'ai besoin de redécouvrir, que j'ai besoin encore d'expérimenter d'une façon nouvelle? Le Seigneur veut vous donner, dans cette semaine, dans ces prochains temps, le rétablissement, la lumière. Vous dire, je suis là dans les temps de détresse. Il veut répondre à vos questions, à vos prières. Il veut vous dire, je suis le chemin. Il veut vous dire, je suis ce jardin bien arrosé. Je veux te donner, même si tu es dans un temps désert, je veux te donner l'eau qui désaltère. Je veux te fortifier. Je veux être ton guide. Alors simplement, laissons le Saint-Esprit nous parler. Et que vous puissiez prendre ce papier, le mettre dans votre Bible. Et durant la semaine, de continuer à prier, à réfléchir. Et peut-être dans quelques semaines, vous allez retomber sur ce bout de papier et puis vous allez dire, Seigneur, oui, j'ai vu ta grâce. J'ai vu comment que tu as donné. Peut-être que j'ai oublié de continuer de prier pour cela, mais j'ai vu comment que tu m'as aidé. J'ai vu comment que les conséquences que j'ai faites de pouvoir vraiment t'aimer, de t'adorer, te louer. Comment que j'ai compris le véritable jeûne, la façon comment que tu veux que je me comporte devant toi et devant les autres. Alors prenons simplement quelques instants de silence les uns envers les autres. Ceux qui sont sur Zoom aussi, vous pouvez aussi le faire aussi pour chacun de vous. Oui Seigneur, tu veux nous dire encore ce matin que tu es présent, que tu agis avec force, avec puissance, que tu es un Dieu qui est proche de nous, tu es un Dieu qui veut bénir, qui veut apporter encore tes grâces, tes bontés, mais tu nous demandes aussi d'agir selon toi. Tu veux nous interpeller, Seigneur, à vivre ce véritable jeûne et à voir les conséquences dans notre vie, les conséquences positives, ce que tu nous promets. Saint-Esprit, viens encore nous éclairer et nous montrer si, justement, il y a des points qui sont énumérés dans ces versets que nous avons à peine à croire que tu peux faire pour nous. Ou peut-être qu'on a perdu, qu'on a oublié comment que tu agis. Ou qu'on est dans un temps où on a besoin de voir encore quelque chose de nouveau se passer dans notre vie, et que tu veux nous redonner justement la force. Tu veux nous donner cette lumière. tu fais jaillir tes grâces, tu veux nous donner cette eau vive, tu veux nous fortifier même dans les déserts arides, tu es notre guide dans les choix, dans les décisions à prendre. Seigneur, nous croyons que même si ce texte a été pour le peuple d'Israël du temps d'Ésaïe, pour leur donner espoir que tu avais quelque chose aussi pour eux, même qu'ils étaient loin de leur pays, qu'ils étaient dans la détresse, qu'ils étaient dans un temps morose. Tu veux nous dire encore aujourd'hui, si tu restaures notre relation, si tu restaures ma relation avec toi, Seigneur Jésus-Christ, si je restaure ma relation avec les autres, si je veux vraiment vivre le véritable jeûne que tu préconises, alors oui, Seigneur, je sais que tu vas agir. Et nous avons hâte, Seigneur, de voir encore une touche spéciale de ta part dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre église. Tu nous promets ces choses et nous croyons, Seigneur, fermement encore par la foi ce matin, que tu vas nous les donner. Oui, parce que tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de parole. Tu ne changes pas. Ce que tu as dit, ce que tu as prononcé, est là pour l'éternité. Alors merci. Merci pour ce que tu veux encore faire dans notre vie. Aide-nous vraiment à prendre le temps devant toi et à voir ta gloire, ta présence, ta magnificence, ta puissance se déverser sur nous, sur notre famille. Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes qui t'aiment d'une façon nouvelle, complète, qui agissent pour toi dans ce monde qui est perdu, dans ce monde qui va de plus en plus mal. Alors oui, Seigneur, on veut que cette lumière du Seigneur jaillisse. Nous voulons encore que tu sois le guide de notre vie, mais que tu puisses aussi aider. Nous puissions aider les autres à venir devant toi et que tu sois aussi leur guide. Alors Seigneur, tu vois tout ce qui a été écrit sur nos bouts de papier, que tu puisses agir pour chaque personne ce matin, que ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont exprimé, leur désir ou leur besoin, qu'ils puissent voir comment que Seigneur, tu vas agir dans ces prochains jours, dans ces prochains temps. Comment que Seigneur, ta parole est vérité. Comment que ces différents points vont se passer dans leur vie. Alors je te prie de les bénir. Je te prie de continuer de les entourer de ta grâce, de ta protection. Qu'ils continuent de lever les yeux vers toi, de continuer de t'adorer, te louer, de continuer de restaurer cette relation avec toi pour avoir une relation intime, une relation qui est complète en toi et qui permet vraiment d'agir pour ton nom seul. Alors merci, merci pour ta parole qui est vérité. Merci pour ce rappel encore ce matin et que nous puissions voir comment que ta grâce, ta bonté, tes bénédictions sont là encore aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour. Et nous t'adorons toi seul, Seigneur, pour tout ce que tu es. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, bon dimanche à tous. Donc la semaine prochaine, on va voir le verset 12, qui est encore un verset très important de la grande vérité qui découle de cette mise en pratique des principes dans le verset 12. Alors à tous, un bon dimanche, une bonne semaine. Que le Seigneur continue de vous encourager et continuons d'être renouvelés dans la présence de notre Seigneur. Soyez bénis.